de Saint-Thomas-d'Aquin. En suivant donc l'ordre des questions de la Somme. Nous sommes arrivés la dernière fois, après avoir vu le baptême de notre Seigneur, nous étions arrivés à la question 40, du genre de vie adopté par le Christ. Donc ici, saint Thomas va se poser quatre questions qui concernent donc la façon dont notre Seigneur a vécu lorsqu'il exerçait son ministère. Première question qui se pose, convenait-il que le Christ vécût et conversa avec les hommes? Donc là, ça montre le caractère social, de vie sociale qu'a eu notre Seigneur dans sa vie publique. Alors ici, saint Thomas va donner quelques arguments, trois arguments, trois motifs, pour montrer qu'il était convenable que notre Seigneur donc conversa avec les hommes. Le Christ a dû mettre sa vie en harmonie avec la fin de son incarnation. Donc les motifs seront tirés du but de l'incarnation. Pourquoi notre Seigneur est venu sur la terre? Notre Seigneur est venu sur la terre en premier lieu pour rendre témoignage à la vérité, comme il le dit lui-même. Saint Jean chapitre 18, verset 37. Donc s'il est venu rendre témoignage à la vérité, pour pouvoir rendre témoignage, il fallait qu'il conversât avec les gens qui étaient autour de lui. Premier argument. Ensuite, notre Seigneur est encore venu sur la terre pour nous délivrer du péché. C'est ce que dit dans son épître à Timothée, saint Paul, premier épître à Timothée, chapitre 1, verset 15. Le Christ Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Alors ici, il dit, il aurait pu sans doute forcer tous les hommes de venir à lui, mais il a mieux aimé nous enseigner par son exemple à rechercher nous-mêmes celui qui est en péril, comme le pasteur, la brebis égarée. Donc ici, c'est le rôle de l'exemple. Pour nous délivrer du péché, notre Seigneur a voulu nous montrer comment nous devions vivre. Et donc pour cela, il était nécessaire qu'il vécût auprès de nous pour qu'on puisse voir le genre de vie qu'il devait mener. Enfin, troisième motif, il venait enfin nous procurer un facile accès auprès de Dieu. Et pour cela, il fallait que, conversant familièrement avec les hommes, il leur inspira la confiance qui porte à s'approcher de Dieu. Donc ici, le dernier motif, notre Seigneur a voulu que nous puissions facilement atteindre le bon Dieu. Et si notre Seigneur avait vécu d'une façon cachée, on n'aurait pas pu le voir, on n'aurait pas pu lui parler, et donc en quelque sorte cela aurait pu nous éloigner de Dieu. Et au contraire, le fait qu'il ait vécu parmi nous nous a permis de nous rapprocher plus facilement de lui. Et alors il donne ici quelques citations de la Sainte Écriture. Aussi lisons-nous dans l'Évangile que Jésus étant à table dans une maison, il y vint beaucoup de publicains et de pécheurs qui mangèrent avec lui et avec ses disciples. Saint Matthieu, chapitre 9, verset 10. Et alors le commentaire ensuite que fait Saint Jérôme. En voyant qu'un publicain converti avait obtenu le pardon, les pécheurs ne désespéraient plus de leur salut. Il convenait, on le voit, que notre Seigneur vécut de la vie sociale et conversa avec les hommes. Alors après, dans les objections qu'il pose, je ne les citerai pas ici, je donnerai simplement les réponses aux objections qui vont montrer pourquoi notre Seigneur, à certains moments, a voulu mener une vie solitaire. Donc s'il était nécessaire que notre Seigneur conversât avec les hommes, il était nécessaire aussi que par moments, il prît du recul pour vivre d'une façon plus retirée. Néanmoins, il s'est retiré parfois dans la solitude, tantôt pour s'y livrer à un repos nécessaire, donc premier motif, la nécessité, comme notre Seigneur était véritablement homme, eh bien, de se reposer. Et c'est ainsi qu'il disait à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu solitaire et reposez-vous un peu. » Saint Marc, chapitre 6, verset 31. Donc, argument qui est quand même intéressant, parce qu'il montre, encore une fois, l'humanité de notre Seigneur. Notre Seigneur étant homme, s'est fatigué, étant fatigué, avait besoin de se reposer. Ensuite, autre motif, la prière. Il s'est retiré parfois pour prier. Il arriva, dit l'Évangile, que Jésus alla sur la montagne pour prier et il passa la nuit à s'entretenir avec Dieu. Saint Luc, chapitre 6, verset 12. Et enfin, dernier motif pour lequel notre Seigneur s'est parfois retiré de la foule, c'est pour nous apprendre à fuir les louanges humaines, à ne rien faire par ostentation et à nous séparer de la foule quand il s'agit surtout de délibérer sur des affaires importantes. De là cette parole, Jésus, voyant la foule, se retira sur la montagne. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 1er. Et à plusieurs reprises, c'est vrai, quand on a voulu faire en sorte que notre Seigneur soit élevé à la royauté, en ce moment-là, notre Seigneur est parti se retirer pendant un certain temps. Donc, poursuivons sur ce genre de vie adopté par notre Seigneur. Convenait-il maintenant que notre Seigneur menât une vie austère? Est-ce que notre Seigneur aurait dû mener, en venant sur la terre, une vie austère? Alors ici, l'argument d'autorité de saint Matthieu, chapitre 11, verset 19, il est écrit « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant ». Il n'a pas fait que cela. Mais malgré tout, donc l'argument d'autorité montre que notre Seigneur ne craignait pas de vivre d'une façon commune et non pas d'une façon austère. Argument de convenance maintenant. Le but de l'incarnation, disions-nous, exigeait que notre Seigneur vécût de la vie sociale et non de la vie solitaire. C'était l'article précédent. Or, il convient que celui qui habite avec quelques personnes adopte leur genre de vie. Donc ici, c'est un argument qui est tiré de la civilité. Il convient que l'on vive de la manière dont vivent les gens où nous, du pays où nous sommes. Donc s'adapter au pays où nous nous trouvons. L'apôtre le déclare lui-même en disant « Je me suis fait tout à tous ». 1 aux Corinthiens, chapitre 9, verset 22. Il était conséquemment très à propos qu'à l'égard du boire et du manger, le divin sauveur suivit la vie commune et ordinaire. Alors maintenant, à nouveau, sans voir dans le détail les objections, quelques précisions tirées des réponses aux objections. On peut se dérober à la société, soit par esprit de mortification, comme aussi on y peut rester afin d'y vivre de la vie commune. Notre Seigneur a donné l'exemple de ces deux genres de vie. Mais abandonnant à Jean-Baptiste l'éclat du jeûne et de l'abstinence, il s'est assis à la table des publicains, bien qu'il ait pratiqué le jeûne dans le désert, afin de nous apprendre à fuir la sensualité. Et ensuite, commentaire ici de Bède. Il a jeûné pour que vous sachiez respecter le précepte du jeûne, et il a mangé avec les pécheurs, afin qu'à la vue des effets de sa grâce, vous reconnaissiez son pouvoir. Donc là encore, on voit l'équilibre dans la vie de notre Seigneur. S'il est vrai que d'une façon générale, il a vécu d'une façon toute simple, au milieu des gens qu'il rencontrait, malgré tout, il a tenu aussi à mener une vie plus rude en jeûnant pendant 40 jours afin de nous aider nous-mêmes à nous mortifier. Alors, troisième article maintenant sur la pauvreté de notre Seigneur. Le Christ a-t-il dû mener une vie pauvre? L'argument d'autorité tiré de la Sainte Écriture, donc toujours, il a dit en parlant de lui-même: le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Saint Matthieu, chapitre 8, verset 20. Et alors, les arguments de convenance, il y en a au moins trois ou quatre qui sont développés. Il devait, pour plusieurs raisons, mener une vie pauvre en ce monde. Le ministère de la prédication qu'il venait remplir exigeait qu'il fût complètement délivré de l'administration des biens temporels. Donc notre Seigneur ne devait pas se préoccuper des biens temporels. Comme il ne devait pas se préoccuper des biens temporels, il était difficile pour lui donc, de gagner beaucoup d'argent. Premier motif. Ensuite, par sa pauvreté corporelle, il nous a enrichis de ses biens spirituels. Donc si notre Seigneur s'est fait pauvre, c'est pour nous enrichir. Si notre Seigneur s'est fait homme, c'est pour nous permettre d'atteindre la divinité. Selon cette parole de saint Paul, vous savez la grâce que vous a faite notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre pour vous, afin que vous deveniez riche de son indigence même. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Autre motif intéressant, s'il eût possédé des richesses, on eût peut-être attribué sa prédication à la cupidité. Il ne voulait pas que l'on dit qu'il prêchait pour son intérêt personnel. Et puis enfin, sa pauvreté servait à mieux faire éclater sa divine vertu. S'il n'avait pas été pauvre, on aurait pu attribuer son succès à sa richesse. Et donc, pour bien montrer que cela venait de sa vertu et non pas de ses biens, il a voulu être privé de ses biens matériels. Le Christ disait au concile d'Éphèse, Théodore d'Ancyre a choisi ce qui est le plus pauvre, le plus abject, le plus humble et le plus obscur aux yeux des hommes, pour que l'on vit avec évidence que sa vertu divine transformait l'univers. Voilà pourquoi il voulut avoir une mère pauvre, une patrie pauvre, une existence pauvre, comme la crèche nous l'apprend. Et puis enfin, sur ce genre de vie menée par notre Seigneur, dernier article, le quatrième, porte maintenant sur la loi. Est-ce que le Christ a vécu selon la loi ? Alors là encore, tout d'abord, l'argument d'autorité. Notre Seigneur disait aux Juifs, « Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. » Saint Matthieu, chapitre 5, verset 17. Et saint Jean Chrysostome reprend, « Il a accompli la loi en ne la transgressant point, puis en justifiant les hommes par la foi, ce que ne pouvait faire la lettre de la loi. » Donc, notre Seigneur a accompli la loi en ne la transgressant point, donc c'est-à-dire qu'il a accompli cette loi, il a été soumis à cette loi, et puis ensuite, il a justifié en plus les hommes par la foi. La justice nous est acquise, donc, par la foi. L'homme juste, c'est celui qui accomplit la loi de Dieu. Mais c'est par la foi au Christ qu'il reçoit les prémices au moins de la rédemption. Argument maintenant de convenance sur cette question de loi. Notre Seigneur s'assujettit à toute la loi mosaïque. Aussi voulut-il recevoir la circoncision par laquelle on prenait engagement solennel de remplir cette loi. Il avait pour dessein d'approuver cette loi, de montrer qu'il en était le but, d'enlever aux Juifs tout prétexte de le calomnier et de délivrer les hommes de la servitude de la loi elle-même. Selon cette parole de l'apôtre, Dieu envoya son Fils soumis à la loi pour délivrer ceux qui vivaient sous l'empire de la loi. Donc là, dans l'Ancien Testament, c'est sûr, l'homme vivait sous cette loi et il accomplissait donc à la lettre cette loi. Et notre Seigneur maintenant est venu inventer une loi nouvelle, qui est une loi qui est plus intérieure, mais il a désiré lui-même accomplir cette loi ancienne. Alors il y a malgré tout quelques objections que je vais citer, puisque les Juifs justement accusaient notre Seigneur de ne pas accomplir la loi. Alors on va voir de quelle manière on pouvait répondre à cette objection des pharisiens en particulier et des scribes. Première objection, donc, qui semblerait montrer que notre Seigneur n'a pas vécu selon la loi. Il semble que non. La loi prescrivait en effet de ne faire aucun ouvrage le jour du sabbat, à l'imitation de Dieu, qui le septième jour s'était reposé de toute son œuvre. Or, le jour du sabbat, le Christ a guéri un malade et lui a ordonné de prendre son grabat. Donc, en guérissant Donc un malade, le jour du sabbat, notre Seigneur, il semblerait qu'il n'ait pas accompli la loi. Alors réponse. Lorsqu'il a guéri un malade le jour du sabbat, le Christ a justifié son acte de trois manières. Premièrement, le précepte de la sanctification du sabbat interdisait non pas les œuvres divines, mais les ouvrages humains. Si Dieu en effet a cessé le septième jour de créer de nouvelles créatures, ne continue-t-il toujours pas d'agir en conservant et en gouvernant toutes choses? Or, les miracles du Christ étaient bien des œuvres divines. Aussi lui-même le déclare-t-il d'après saint Jean, « Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis ». Première réponse, en faisant un miracle, notre Seigneur ne faisait pas une action humaine, mais une action divine. Or, la loi du sabbat interdisait de faire des actions humaines et non pas des actions divines. Deuxième argument. En second lieu, ce précepte ne défendait pas les œuvres qui sont de nécessité de salut, même corporelles. Le Christ le dit dans saint Luc. Est-ce que chacun d'entre vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et il ajoute, « Qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retire pas le jour du sabbat ?» Or, il est manifeste que les miracles du Christ avaient pour but le salut du corps et de l'âme. Donc, notre Seigneur ici montre, enfin plutôt saint Thomas montre, en s'appuyant sur notre Seigneur lui-même, qu'il était tout à fait possible d'accomplir donc certains actes le jour du sabbat, comme celui de détacher son bœuf ou son âne. Et donc, à plus forte raison, était-il possible de guérir un malade, donc d'accomplir le soulagement d'une âme. S'il était possible de soulager le corps, a fortiori, il était possible de soulager les âmes. Et troisième argument maintenant, concernant cette violation du sabbat, qui en fait n'en était pas une. Enfin, ce précepte n'empêchait point les œuvres qui se rapportent au culte divin. N'avez-vous pas lu dans la loi, dit le Christ en saint Matthieu, que les jours de sabbat, les prêtres violent le repos sabbatique dans le temple sans commettre de faute? Vous pratiquez la circoncision le jour du sabbat, dit encore le Christ en saint Jean. Or, si le Christ a ordonné aux paralytiques de porter son grabat le jour du sabbat, n'était-ce point un acte qui était ordonné au culte divin, à savoir à la louange de la puissance de Dieu? Il est donc évident que le Christ ne violait pas le repos sabbatique, encore que ce fût là le reproche que lui adressaient faussement les Juifs d'après saint Jean. Cet homme n'est pas envoyé de Dieu, disait-il, puisqu'il n'observe pas le sabbat. Donc la guérison encore du paralytique était liée au culte divin. Et par là même, ce n'était pas une infraction à la loi. Deuxième objection, pour montrer que notre Seigneur n'aurait pas observé la loi, d'après les actes, le Christ a pratiqué ce qu'il a enseigné. Or, n'a-t-il pas enseigné, d'après saint Matthieu, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme? Ceci va à l'encontre du précepte de la législation du Lévitique qui déclarait l'homme impur quand il mangeait ou touchait certains animaux. Il semble donc que le Christ n'a pas vécu selon la loi. Donc le Christ n'aurait pas vécu selon la loi puisqu'il aurait dit que ce n'est pas ce que l'on mange qui peut nous souiller. Or, dans l'Ancien Testament, il y avait des aliments qui étaient nommés impurs et qui, par là, souillaient donc l'homme. Alors la réponse que fait à cette difficulté saint Thomas, il nous dit « Le Christ a voulu montrer que ce n'est pas en vertu de leur nature que certains aliments rendent impure l'âme de l'homme. » Si c'était en vertu de leur nature, on ne pourrait jamais en manger, même aujourd'hui. « Mais seulement en vertu du symbolisme qu'on y attache. » Et ce symbolisme existait dans l'Ancien Testament, mais n'existe plus aujourd'hui. Or, dans la loi elle-même, lorsque certains aliments sont dits impurs, c'est en vertu d'un symbolisme. Saint Augustin écrit « Quand on nous demande au sujet du porc et de l'agneau si leur nature est pure, nous répondons « Toute créature de Dieu est bonne. mais c'est à raison du sens qu'on y attache que l'agneau est pur et le porc impur. Donc en affirmant que tous les aliments sont purs en eux-mêmes, notre Seigneur ne déroge pas pour autant à la loi. Il montre tout simplement que si la loi interdisait de manger dans l'Ancien Testament certains aliments, c'était en raison d'un symbolisme qui leur était attaché. Troisième objection. On porte un même jugement, comme le remarque saint Paul, sur ceux qui commettent une action et sur ceux qui l'approuvent. Ceux qui agissent ou ceux qui approuvent les actions agissent de la même manière, en quelque sorte. Or, le Christ a approuvé ses disciples en les excusant quand, malgré la loi, ils ont, le jour du sabbat, arraché des épis. Le Christ n'a donc pas observé la loi dans sa vie. En encourageant de se nourrir ainsi, donc d'arracher des épis, ce qui était interdit par la loi, notre Seigneur lui-même donc était soi-disant donc en infraction avec la loi. C'est ce que dit l'objection. Réponse. Lorsque les disciples, le jour du sabbat, arrachaient des épis et les mangeaient, ils étaient aussi excusés de transgresser le sabbat à cause de la faim qui les poussait. Le cas est analogue à celui de David, qui lui non plus ne transgressa pas la loi, quand à cause de la faim, il mangea les pains sacrés dont il ne lui était pas permis de se nourrir. Et notre Seigneur lui-même a pris cet argument pour bien montrer que ses disciples n'avaient pas pour autant violé le sabbat en se nourrissant de ses épis. Donc voilà pour le genre de vie mené par notre Seigneur. Alors maintenant, question suivante, la tentation. Là à nouveau, quatre articles dans cette question, 41. Tout d'abord, convenait-il que le Christ fût tenté ? L'argument d'autorité. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté par le démon. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 1. Et là, saint Thomas, maintenant, va donner ensuite quatre arguments de convenance pour montrer qu'il convenait donc que notre Seigneur fût tenté. Vaincre d'avance nos tentations en nous méritant la force de les surmonter. Notre Seigneur a été tenté, c'était tout d'abord pour vaincre les tentations que nous-mêmes nous avons à subir, en nous méritant la force de les surmonter. Ensuite, nous inspirer la prudence pour qu'après notre baptême, notre âme soit toujours prête à résister aux démons. Si notre Seigneur lui-même a été tenté, à combien plus forte raison tous les hommes seront tentés. Donc nous devons être prudents, nous devons être sur nos gardes, en sachant qu'il est tout à fait possible pour nous d'être tentés. Ensuite, troisième motif, nous donner l'exemple de la résistance aux tentations. Notre Seigneur ayant résisté à ces différentes tentations, il nous apprend par là de quelle manière nous aussi nous devons résister aux tentations. Et enfin, quatrième motif, nous inspirer la confiance en la divine miséricorde. Notre Seigneur étant arrivé à vaincre les tentations, nous montre par là la possibilité de les vaincre et donc nous donne la confiance pour vaincre ces tentations. Tels sont les motifs qui portèrent notre divin Sauveur à se laisser tenter par le démon. Il voulait que, selon l'expression de saint Paul, nous eussions en lui un pontife qui sût compatir à nos infirmités, ayant été lui-même tenté en toutes choses comme nous, moins le péché. Manifestement, il était convenable qu'il fût tenté. Alors ici, je vais analyser une objection, la première. On n'en voit pas la raison, donc on ne voit pas la raison pour laquelle notre Seigneur fut tenté. Tout d'abord, tenter, c'est faire une expérience. Or, on ne fait d'expérience qu'au sujet de ce que l'on ignore. Mais même les démons connaissaient la vertu du Christ, puisqu'il est dit dans saint Luc, Jésus ne laissait pas parler les démons parce qu'il savait qu'il était le Christ. Il ne convenait donc pas que le Christ fût tenté. Les démons connaissant la nature de notre Seigneur, ils ne pouvaient pas le tenter, puisque normalement dans la tentation on dit « si tu es le Fils de Dieu ». Or s'il le savait déjà, il n'y avait pas de raison de le tenter. Et voici la réponse que donne saint Thomas. D'après saint Augustin, le Christ ne s'est fait connaître au démon que dans la mesure où il l'a voulu, non par ce qui est la vie éternelle, mais par certains effets temporels de sa puissance. Ils en pouvaient conjecturer que le Christ était le Fils de Dieu. Néanmoins, remarquant en lui certains signes de l'infirmité humaine, ils ne connaissaient pas avec certitude qu'il était le Fils de Dieu. Donc là, ça explique le motif de la tentation. Les démons ont tenté notre Seigneur parce qu'en fait, ils ne savaient pas vraiment si notre Seigneur était ou non le Fils de Dieu. Et c'était pour essayer de savoir s'il l'était qu'ils l'ont tenté. Et pourquoi n'était-il pas sûr qu'il était le Fils de Dieu? En raison de l'infirmité de sa nature humaine. Infirmité dans le sens où notre Seigneur avait faim après 40 jours. Aussi le démon a-t-il voulu le tenter? C'est là ce que suggère saint Matthieu quand il écrit « Après que Jésus eut faim, le tentateur s'approcha de lui. » Tenter le Christ, remarque saint Hilaire, le démon ne l'eût point osé si l'infirmité de la faim n'eût pas révélé en Jésus un être humain. Et cela ressort aussi de la manière dont le démon l'a tenté. Il dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Et saint Grégoire propose cette explication. Que signifie un tel exhorte, sinon que le démon savait que le Fils de Dieu devait venir, mais ne pensait pas qu'il viendrait avec les faiblesses d'un corps humain. Donc là, c'est les circonstances montrent pour comment ça se fait que le démon a voulu tenter notre Seigneur. Alors maintenant, la deuxième question va concerner le lieu. Le Christ devait-il être tenté dans le désert ? Argument d'autorité, toujours pris dans saint Matthieu. Jésus resta 40 jours et 40 nuits dans le désert. Ah non, pardon, c'est saint Marc qui le dit. Jésus resta 40 jours et 40 nuits dans le désert et il y était tenté par Satan. Donc saint Marc, chapitre 1er, verset 13. Ensuite, le développement. Il s'est présenté lui-même au tentateur, comme il s'est offert volontairement aux agents de l'enfer pour être crucifié. Autrement, le démon n'aurait pas osé venir à lui. Donc là, ici, on développe le fait, les circonstances. Comment ça se fait que notre Seigneur a été tenté? Il dit, il s'est mis lui-même, en quelque sorte, au devant du démon pour être tenté. N'ignorant pas que l'homme qui est seul est plus exposé à être tenté et plus facilement vaincu, il se transporta dans le désert comme sur un champ de bataille afin d'y être tenté par le diable. Alors le but maintenant, c'est à dessein, dit saint Ambroise, qu'il alla au désert provoquer le démon. S'il n'avait pas été tenté, il n'aurait pas vaincu pour moi. Donc là c'est le même argument qu'on avait vu tout à l'heure, qui était le premier. Si notre Seigneur a voulu cette tentation, c'est pour nous permettre de vaincre à l'avance nos tentations. Donc, s'il n'avait pas été tenté, il n'aurait pas vaincu pour moi. De plus, à cela s'ajoute un mystère et une leçon. Alors, quel est le mystère ici, qui est symbolisé à travers ce désert? Il voulait rappeler la délivrance d'Adam, qui, exilé du paradis, avait été jeté dans le désert. Donc, voilà le mystère. Et ensuite, la leçon. Et nous enseigner que le démon porte envie aux personnes qui tendent au meilleur bien. Donc on ne doit pas être étonné d'être tenté lorsqu'on désire progresser. Au contraire, plus on désirera progresser, et plus le démon nous mettra les bâtons dans les roues. Parce que le démon porte envie aux personnes qui tendent au meilleur bien. Le démon ne tente pas les gens médiocres, mais ceux qui désirent sortir de leur médiocrité. Alors bien sûr, une objection classique qui survient tout de suite à l'esprit quand on voit que notre Seigneur s'est lui-même approché du démon, on pensera peut-être qu'il s'est exposé à la tentation en allant ainsi dans le désert. Et alors, pour résoudre cette question, saint Thomas fait une distinction. Il nous dit, il y a deux occasions dans la tentation. L'une vient de l'homme, l'autre du démon. Se tenir en quelque sorte aux environs du péché, voilà ce qu'il faut éviter. Donc on doit fuir les occasions prochaines de péché. Se mettre en occasion prochaine de péché, c'est une chose qu'on ne doit pas faire. Voilà ce qu'il faut éviter. Selon cette parole, ne restez pas dans le voisinage de Sodome. Genèse chapitre 19, verset 17. L'autre vient uniquement du démon qui, ennemi de tout bien, porte envie à ceux qui veulent s'élever à la perfection. Celle-ci, on ne doit pas la craindre. Les actions qui la fournissent au malin esprit, loin d'être dangereuses, sont inspirées par l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, on voit, la Sainte Écriture le dit, notre Seigneur, poussé par l'Esprit Saint, alla au désert. Donc ce n'était pas uniquement par lui-même, c'était bien le Saint-Esprit qui le guidait. L'envie du démon n'y trouve que secondairement l'occasion de nous attaquer. Donc en gros, je pense que là ce que veut dire saint Thomas, c'est que nous devons rechercher toujours le bien, ce qu'il y a de plus parfait, même en sachant que si on cherche ce qu'il y a de plus parfait, on sera tenté. Parce que ce qu'on désire en l'occurrence en ce moment-là, pour nous-mêmes en tout cas, ce n'est pas la tentation, ce qu'on désire c'est le progrès spirituel. Et ce n'est que secondairement que nous sommes attaqués. Ce n'est pas ce qui est recherché pour nous en premier. N'est qu'une conséquence. Et notre Seigneur ayant vaincu nos tentations, eh bien, on doit garder confiance et continuer sur la pente de la sanctification. Troisième objection, maintenant question, qui concerne toujours cette tentation, et qui concerne maintenant le temps, après avoir vu le lieu. La tentation du Christ a-t-elle dû avoir lieu après son jeûne ? Là, de nouveau saint Matthieu, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, dit l'Évangile, il eut faim. Et alors le tentateur s'approcha de lui. Saint Matthieu chapitre 4, verset 2. Argument de convenance, il convenait que le Christ fût tenté après son jeûne. Il nous donnait par là un exemple et un enseignement. Un exemple tout d'abord, en nous montrant dans le jeûne une arme contre les traits de l'ennemi, et ensuite un enseignement, en nous apprenant que ceux qui se livrent aux bonnes actions ne sont pas exempts des attaques du démon. Il ne prolongea pas son jeûne plus que n'avaient fait Moïse et Élie, pour qu'on ne pût pas douter qu'il avait pris une véritable chair humaine. Alors après, ça concerne ici la durée. Si notre Seigneur avait jeûné pendant plusieurs mois, on aurait pu douter qu'il était vraiment homme. Et comme on voit toujours, le souci qu'a eu notre Seigneur, c'était de montrer qu'il était vrai Dieu, mais en même temps qu'il était véritablement homme. Alors qu'il n'a pas voulu dépasser ce que d'autres hommes ont été capables de faire et qui étaient véritablement hommes, à savoir Moïse et Élie, qui à leur tour avaient jeûné 40 jours et 40 nuits. Et ici, l'objection... Il ne semble pas donc que notre Seigneur ait dû être tenté après son jeûne. On a vu plus haut qu'il ne convenait pas au Christ de mener une vie austère. Or, quelle plus grande austérité que de ne rien manger pendant 40 jours et 40 nuits. Car c'est ainsi que saint Grégoire interprète la Sainte Écriture. Le Christ a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits en ce sens que durant ce temps, il n'a pris absolument aucune nourriture. Par suite, pourquoi faire précéder la tentation du Christ d'un tel jeûne? Et la réponse qu'il fait, il n'était pas à propos pour le Christ de mener une vie austère. Il devait se montrer semblable à ceux à qui il prêchait. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Cependant, nul ne doit assumer l'office de prêcheur avant d'être purifié et parfait en vertu à l'exemple du Christ, qui d'après les actes a commencé de pratiquer avant d'enseigner. C'est pourquoi le Christ, aussitôt après son baptême, a mené une vie austère en vue d'enseigner, que l'on ne doit pas se livrer à l'office de la prédication qu'après avoir dompté sa chair. Je châtie mon corps et je le réduis en servitude, écrit saint Paul, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Donc si notre Seigneur a voulu jeûner, c'était en raison de l'enseignement de la doctrine qu'il devait donner donc quelque temps après. Et pour pouvoir enseigner, il faut être saint. Et donc il faut être mortifié. Donc c'était un exemple de mortification que notre Seigneur voulait donner à tous les prédicateurs. Alors, dernière question sur cette tentation, sur la triple tentation, qui concerne maintenant l'ordre et le mode de la tentation. Est-ce que l'ordre et le mode de la tentation du Christ ont été convenables? Réponse. D'après saint Grégoire, la tentation qui vient de l'ennemi se fait par mode de suggestion. Or, on ne propose pas à tous de la même manière une suggestion, mais pour la faire, on s'appuie sur ce à quoi chacun est attaché. Voilà pourquoi le démon ne tente pas l'homme spirituel tout de suite avec des péchés graves, mais il commence par des choses légères pour le conduire ensuite à des choses graves. Donc là, on va voir que dans les tentations, dans la triple tentation, le démon a commencé par tenter notre Seigneur de choses plus légères et de choses de plus en plus graves. C'est cette même loi qu'a observée le démon dans la tentation du premier homme, donc déjà la tentation d'Adam et Ève. Car il a sollicité son esprit d'abord à manger du fruit de l'arbre défendu. Pourquoi Dieu vous a-t-il prescrit de ne pas manger du fruit de tout arbre du paradis? Donc c'était la première chose, manger donc de l'arbre. Puis à faire ensuite un acte de vaine gloire, vos yeux s'ouvriront, indiquant par là la vaine gloire. Et enfin, il a poussé la tentation jusqu'au suprême orgueil. Vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Donc déjà, dans la tentation du premier homme, on retrouve ces trois degrés de tentation. Tel est l'ordre qu'a suivi le démon dans la tentation du Christ. D'abord, il lui a proposé ce que désirent les hommes les plus spirituels, soutenir sa vie par la nourriture. En second lieu, il en est venu à ce qui entraîne parfois à la défaillance les hommes spirituels. Agir par ostentation ou par vaine gloire. Et enfin, il a mené la tentation sur un terrain qui n'est plus celui des hommes spirituels, mais seulement celui des hommes charnels, désirer les richesses et la gloire du monde jusqu'au mépris de Dieu. Et c'est pourquoi dans les deux premières tentations, le démon a dit « si tu es le Fils de Dieu ». Mais il n'a pas repris cette formule dans la troisième tentation, qui, contrairement aux deux premières, ne saurait convenir aux hommes spirituels, qui sont ici figurés par les fils de Dieu, parce qu'étant fils de Dieu par adoption. À toutes ces tentations, le Christ a riposté avec des témoignages de la loi. Alors là, c'est un autre élément qu'il donne ici. Et non par la puissance de sa vertu. Et il voulait montrer par là qu'il était véritablement homme. Et donc c'était pour humilier davantage le démon, qu'il utilisait une arme humaine et non pas une arme divine. Donc qu'il agissait par ses témoignages de la loi et non pas par la puissance de sa vertu. Il donnait ainsi plus d'honneur à l'homme et punissait davantage l'adversaire, puisque l'ennemi du genre humain était vaincu apparemment non par Dieu mais par l'homme. Alors retenons ici que le démon donc ne tente pas toutes les personnes de la même manière, et qu'en général, le démon tente toujours les personnes par des tentations beaucoup plus légères au départ, mais dans le but après de les faire sombrer toujours plus profondément dans le péché. Alors ici, deux objections que je relève. La première qui concerne la tentation des pains. Vous savez que la première tentation, c'était que notre Seigneur transforme les pierres en pain. Alors, l'objection dit ceci. La tentation des pains ne fut pas une vraie tentation. Toute tentation du démon ne mène-t-elle pas au péché? Or, si le Christ avait remédié à sa faim corporelle en changeant les pierres en pain, il n'aurait pas péché. Pas plus qu'il ne pécha lorsque, par un miracle qui n'était pas moindre, il multiplia les pains afin de subvenir à la faim de la multitude. Donc, si notre Seigneur a multiplié les pains, pouvait très bien transformer les pierres en pain, sans pécher pour autant. Réponse. Il n'y a pas de péché de gourmandise à user de ce qui est nécessaire à la subsistance de sa vie. Mais commettre un désordre en vue de soutenir son corps, cela relève du vice de la gourmandise. Or, n'est-ce point un désordre de vouloir se chercher miraculeusement de la nourriture dans le seul but de soutenir son corps, alors que l'on peut avoir recours à des moyens humains? Donc on ne doit pas tenter Dieu en recherchant des moyens extraordinaires, alors qu'on a des moyens humains à notre portée. Le Seigneur a envoyé miraculeusement la manne dans le désert aux fils d'Israël, parce qu'ils ne pouvaient se procurer autrement leur nourriture. Il n'y avait rien à manger dans cet endroit pour tant de personnes. Pour la même raison, le Christ aussi a nourri miraculeusement les foules dans le désert, faute de moyens ordinaires de subsistance. Par contre, pour subvenir à sa faim, le Christ pouvait se pourvoir autrement qu'en accomplissant des miracles. Il lui suffisait de faire comme Saint Jean-Baptiste, de se nourrir de sauterelles ou autre, ou même de se rendre au pays voisin. Aussi le démon pensait-il que le Christ pécherait si, pour remédier à sa faim, il essayait, au cas qu'il fût un simple mortel, de faire des miracles. Et dernière objection, qui est intéressante aussi, puisque elle nous montre comment nous devons réagir nous-mêmes face à ce genre de tentation. Saint Jérôme écrit: le dessein du Christ fut de vaincre le démon par l'humilité et non par la puissance. Ce n'est donc pas par mode de blâme impératif qu'il aurait dû le repousser en disant « Arrière Satan ». La troisième tentation, notre Seigneur lui a dit « Arrière Satan ». Donc l'objection dit « C'est plutôt par l'humilité, donc d'une façon plus douce, que notre Seigneur aurait dû reprendre le démon plutôt que de le reprendre d'une façon si violente ». Réponse: le Christ ne s'est pas troublé, ni n'a blâmé le démon qui l'offensait en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ». Donc dans la deuxième tentation, le Christ ne s'était pas avait gardé en quelque sorte un relatif calme. Mais quand le démon a usurpé à son profit l'honneur de Dieu par ses mots « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et si tu m'adores », le Christ fut exaspéré et il le repoussa en ces termes « Arrière Satan ». Et par cet exemple, le Christ veut que nous apprenions à souffrir avec une âme magnanime les offenses qui nous sont faites et à ne pas même supporter d'entendre les injures contre Dieu. Donc lorsque c'est notre propre honneur qui est touché, en ce moment-là, on ne doit pas s'offusquer plus que cela, mais lorsque c'est l'honneur de Dieu, en ce moment-là, notre devoir est de le venger. Donc voilà pour la triple tentation. Nous passons à la question suivante, si ça va, qui concerne maintenant la prédication. À nouveau, quatre questions. Le Christ ne devait-il prêcher qu'aux Juifs? Alors, réponse, l'argument d'autorité. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Saint Matthieu, chapitre 15, verset 24. Argument de convenance. Il convenait que soit par lui-même, soit par ses apôtres, le Christ prêcha d'abord aux Juifs seuls. Il faut tout retenir, c'est d'abord, et puis donc aux Juifs seuls. Cette préférence montrait que sa venue accomplissait les promesses anciennement faites, non pas aux gentils, mais à leur père. Donc les promesses concernaient le peuple juif. Et par conséquent, il convenait que notre Seigneur prêcha avant tout aux Juifs. Ensuite, autre argument. Cela prouvait aussi que la venue du Christ avait été établie par Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, dit saint Paul aux Romains, obéit à l'ordre. Saint Thomas revient toujours là-dessus. Dieu fait tout avec ordre. Or, l'ordre exigeait que l'enseignement du Christ fut d'abord proposé aux Juifs, qui étaient plus proches de Dieu par leur foi et leur culte monothéiste. Donc, raison pour laquelle notre Seigneur s'adresse aux Juifs, ils étaient plus près de Dieu par leur foi et par leur culte monothéiste, et transmis ensuite par leur intermédiaire aux païens. Donc ces Juifs devaient servir d'intermédiaire par rapport aux païens. C'est ainsi que dans la hiérarchie céleste, les illuminations spirituelles parviennent aux anges inférieurs par l'intermédiaire des anges supérieurs. Aussi la parole rapportée par saint Matthieu, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », saint Jérôme l'explique-t-il en ces termes. Le Christ s'exprime ainsi non pour dire qu'il n'a pas été envoyé aux païens, mais pour affirmer qu'il a d'abord été envoyé à Israël. Isaïe avait écrit « J'enverrai de leur réchappée, c'est-à-dire des juifs, vers les nations, et ils publieront ma gloire parmi les païens. » Donc il convenait que notre Seigneur s'adressa aux juifs. Et enfin, toujours dans le corps de l'article, pour expliquer cet ordre, enfin, le Christ n'a-t-il pas mérité pouvoir et domination sur les païens par la victoire de la croix? Donc ici, l'argument consiste à montrer que c'est par la croix que notre Seigneur a acquis la victoire sur le monde païen. Et donc il convenait que notre Seigneur meure avant de pouvoir, avant que la prédication s'exerce auprès des païens. À celui qui vaincra, lit-on dans l'Apocalypse, je donnerai la puissance sur les nations comme je l'ai reçue de mon Père. Parce que le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix, écrit saint Paul aux Philippiens, Dieu l'a exalté, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue le confesse. C'est pourquoi, avant sa passion, le Christ n'a pas voulu prêcher sa doctrine aux païens. Donc notre Seigneur n'a pas voulu prêcher sa doctrine aux païens, parce que c'est par la croix, par sa mort sur la croix, qu'il a mérité la victoire sur eux. Donc n'étant pas encore mort, il ne s'est pas adressé à eux. Mais après sa passion, il a dit à ses apôtres, « Allez enseigner toutes les nations. » On lit dans saint Jean qu'à l'approche de la passion, certains païens voulaient voir Jésus. Celui-ci leur répondit, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et saint Augustin explique ce symbole en disant « Le grain dont il parlait, c'était lui. Il allait mourir par l'infidélité des Juifs et se multiplier par la foi de tous les peuples. » Donc en disant aux païens « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul », ça signifiait « Tant que je ne suis pas encore mort, en ce moment-là, le salut ne vous est pas encore réservé. Mais lorsque je vais mourir, en ce moment-là, je porterai beaucoup de fruits et donc vous allez pouvoir vous convertir » par l'intermédiaire des apôtres qui viendront vous évangéliser. Donc ça montre l'ordre ici de la providence dans l'économie du salut. Deux objections. Première objection que j'analyse ici. Ainsi que l'écrit saint Matthieu, il enseignait comme ayant autorité. Son autorité ne se serait-elle pas affichée plus grande s'il avait instruit ceux qui, comme les païens, n'avaient encore reçu aucun enseignement? Donc notre Seigneur parlait comme ayant autorité. Est-ce que son autorité n'aurait pas été plus grande s'il s'était adressé non seulement aux juifs, mais aussi aux païens? La réponse que fait saint Thomas, atteindre un résultat par d'autres ne témoignait-il pas d'une puissance plus forte et plus étendue que de l'atteindre par soi-même? Donc, d'une certaine manière, être capable de faire quelque chose par quelqu'un d'autre est plus grand que de le faire soi-même. Donc, dans la mesure où notre Seigneur agit par l'intermédiaire de ses apôtres, il montre par là qu'il a une plus grande puissance. Aussi, la puissance divine s'est-elle surtout affirmée dans le Christ par le fait qu'il a conféré à ses disciples tant d'efficacité dans leur prédication qu'ils lui ont converti les nations qui n'avaient rien entendu de lui. Donc, première réponse qu'on peut faire. Notre Seigneur a manifesté une plus grande puissance en faisant en sorte que ce soit que les païens se convertissent par ses apôtres que par lui-même, parce qu'il est plus grand de faire quelque chose par quelqu'un d'autre que de le faire soi-même. Et deuxième argument, quant à la puissance même du Christ dans son enseignement personnel, on le constate dans les miracles par lesquels il confirmait sa doctrine, dans sa force persuasive, dans son autorité, lui qui parlait comme ayant un pouvoir supérieur à celui de la loi, puisqu'il s'écriait « Mais moi je vous le dis ». Et aussi dans la rectitude qu'il montrait dans sa vie pure de tout péché. Donc notre Seigneur n'avait pas besoin, pour manifester sa puissance, de convertir lui-même les païens. Sa puissance, il l'a manifestée d'une autre manière, à savoir par son autorité et également par les miracles qui accompagnaient sa doctrine et par sa vie qui était toute sainte. Autre objection, du reste, pour montrer donc que le Christ aurait dû aussi s'adresser aux païens, donc ne pas s'adresser uniquement aux juifs. Du reste, le Christ n'a-t-il pas instruit quelques-uns des païens, comme la Samaritaine et la Cananéenne? Il se devait bien plus à la multitude des païens qu'à quelques individus. S'il l'a fait auprès de quelques-uns, il aurait dû le faire a fortiori auprès de tous. S'il n'y avait pas d'obstacle pour quelques-uns, pourquoi y en aurait-il pour l'ensemble? Réponse. Si le Christ au début ne devait pas communiquer sa doctrine indifféremment à tous les païens, afin de montrer qu'il était donné aux Juifs comme au peuple premier-né, il ne devait pas non plus rejeter tous les païens en bloc, afin de ne pas leur enlever l'espoir du salut. Voilà pourquoi quelques-uns des païens, en particulier, ont été admis à sa prédication à cause de l'excellence de leur foi et de leur piété. Donc ces païens étaient en quelque sorte les prémices de tous les païens qui se convertiraient par la suite. Alors, autre question très intéressante, et qui reste tout à fait d'actualité. Le Christ devait-il se garder d'offenser les Juifs dans ses prédications? C'est saint Thomas qui parle, hein. Je ne commente pas, je lis. Le salut de la société passant avant la tranquillité des personnes privées, un prédicateur et un docteur ne doivent pas craindre d'attaquer les hommes pervers qui empêchent le bien commun. Les scribes, les pharisiens et les princes des Juifs nuisaient grandement au bien spirituel du peuple, non seulement en s'opposant à la doctrine du salut, mais en corrompant la multitude par leurs mœurs dépravées. Le Seigneur devait certainement, sans crainte de les offenser, enseigner publiquement la vérité qu'ils avaient en horreur et leur reprocher leurs vices. Aussi, quand ses disciples lui dirent « Savez-vous que les pharisiens, entendant cette parole, se sont scandalisés ?» Il répondit « Laissez-les, ce sont des aveugles et des conducteurs d'aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la même fosse. » Saint Matthieu, chapitre 15, verset 12. Trois objections. Donc la question, le Christ aurait-il dû prêcher aux Juifs sans les heurter? On serait porté à l'admettre. Donc il aurait dû leur prêcher sans les heurter. Comme le remarque saint Augustin, donc c'est ce que dit l'objection, dans Jésus-Christ, homme, le Fils de Dieu, s'est donné à nous en exemple de vie. Donc notre Seigneur est un exemple. Or, ne devons-nous pas éviter de scandaliser non seulement les fidèles, mais même les infidèles? Saint Paul écrit aux Corinthiens, « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux païens, ni à l'Église de Dieu. » Il semble donc que même le Christ devait éviter de heurter les Juifs dans son enseignement. Réponse. L'on ne doit heurter personne de telle manière qu'on lui soit une occasion de ruine par suite d'une action ou d'une parole déshonnête. Mais ainsi que le dit saint Grégoire, quand le scandale est provoqué par la vérité, il vaut mieux souffrir le scandale que de trahir la vérité. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Quand le scandale est provoqué par la vérité, il vaut mieux souffrir le scandale que trahir la vérité. C'est-à-dire qu'il y a le scandale des faibles qu'on doit ménager, mais le scandale des gens de mauvaise foi, on n'a pas à le ménager, puisque si on devait ménager le scandale des gens qui sont de mauvaise foi, en ce moment-là, on ne pourrait plus rien dire. Et les gens de mauvaise foi, il y en aura toujours. Donc on doit éviter le scandale des faibles, des personnes qui sont donc plus faibles, mais si les gens sont de mauvaise foi, on pourra n'importe comment pas empêcher qu'ils se scandalisent, quoi que l'on fasse. Donc on ne doit pas se préoccuper d'eux. Deuxième objection. D'ailleurs, aucun sage ne doit faire ce qui pourrait compromettre le résultat de son œuvre. Or, en troublant les Juifs par son enseignement, Le Christ en empêchait l'efficacité. On lit dans Saint Luc, après avoir été blâmé par le Seigneur, les pharisiens et les scribes se mirent à le presser vivement et à l'accabler de questions, lui tendant des pièges et cherchant à surprendre quelques paroles de sa bouche pour l'accuser. Le Christ n'aurait donc pas dû les heurter. En les heurtant, il les a agacés. En les agaçant, eh bien, il les a poussés finalement à s'opposer à lui. Et donc, ça a dû certainement nuire au résultat de son enseignement. Donc, c'est ce que dit l'objection. Réponse. En blâmant publiquement les scribes et les pharisiens, le Christ n'a pas empêché les résultats de son enseignement, mais il les a bien plutôt assurés. Car averti de leurs vices, le peuple se détournait bien moins du Christ à cause de leurs discours qui s'opposaient toujours à l'enseignement du Maître. Donc là où il est nécessaire de parler, c'est justement lorsque les opposants, par leur conduite, eh bien, détournent les faibles. Donc si on veut protéger les faibles, on doit dénoncer le mal. Si on ne le dénonce pas, en ce moment-là, le mal se répand. Et donc c'était pour éviter que le mal ne se répande, que notre Seigneur l'attaquait de front. Et troisième objection intéressante. Hein. L'apôtre conseille à Timothée, ne reprends pas avec rudesse un vieillard, mais avertis-le comme un père. Or, les prêtres et les princes des Juifs étaient des anciens parmi le peuple. On ne devait donc pas le leur faire de durs reproches. Réponse. Le conseil de l'apôtre à Timothée est à entendre de ces vieillards qui ne le sont pas seulement par l'âge et par l'autorité, mais aussi par une vie d'honnêteté, de ces véritables anciens du peuple dont parlent les nombres. Mais ceux qui font tourner l'autorité de leur vieillesse en instrument de malice et pêchent publiquement, il faut les blâmer ouvertement et vivement, ainsi que le fait Daniel en ces termes, homme vieilli dans le crime. Alors, il ne reste plus que deux articles, rassurez-vous, après je vous libère. Troisième question dans cet article. Le Christ aurait-il dû tout enseigner en public? Donc cette question regarde le mode d'enseignement. Savoir que notre Seigneur a prêché, donc a-t-il prêché en public et le devait-il? Argument d'autorité. Il a dit, je n'ai rien enseigné en secret. Saint Jean, chapitre 18, verset 20. Alors, dans le corps de l'article, saint Thomas explique qu'il y a trois manières de prêcher en secret. Et il montre comment, de quelle manière on pourrait dire que notre Seigneur a prêché en secret, de quelle manière on doit dire qu'il ne l'a pas prêché. Première manière de prêcher en secret, donc, lorsque celui qui l'enseigne veut dérober la doctrine au grand nombre, soit par amour propre et par envie, pour affecter de la supériorité au moyen d'une connaissance ignorée des autres hommes. Et ce n'est point, assurément, ce qui eut lieu dans le Christ. Soit par un reste de pudeur, parce que cette doctrine est erronée ou impure, comme celle des hérétiques. Ce qui ne s'applique pas davantage, donc, à la doctrine de notre Seigneur. Donc, ceux qui veulent, par amour propre et par envie, montrer, finalement, qu'ils sont supérieurs aux autres, et donc qui par là prêche d'une manière secrète. En second lieu, une doctrine est dite secrète en raison du petit nombre de personnes auxquelles elle est proposée, d'une manière de parler en secret, s'adresser à un petit nombre. Sous cet autre rapport, le Christ n'a point enseigné en secret. Il s'est adressé soit au peuple réuni, soit à tous ses disciples. Enseigne-t-il secrètement, demande saint Augustin, celui qui prêche devant la multitude et qui s'adresse seulement à quelques personnes, leur enjoint de transmettre sa parole à toutes les autres? Donc on ne peut pas dire qu'il prêchait en secret pour autant lorsqu'il prêchait à ses seuls disciples, puisque ses disciples avaient à leur tour mission de transmettre cet enseignement aux autres. Donc dans tous les cas, il prêchait en public. Enfin, une doctrine peut être appelée secrète à cause de la manière dont on l'enseigne. Dans ce sens, celle du Christ l'était parfois, car il lui arrivait souvent de voiler sous des paraboles les vérités que le commun des hommes n'était ni digne ni capable de saisir. Donc, deux motifs pour lesquels il parlait comme cela, parce que son auditoire n'était pas digne de l'entendre, ou parce que son auditoire n'était pas capable de l'entendre. Mais ces paraboles, il les expliquait ensuite d'une manière claire et précise à ses disciples, afin qu'ils en transmissent la signification à d'autres personnes plus capables d'en profiter et de les expliquer à leur tour. On peut dire en conclusion que notre Seigneur a enseigné publiquement, comme il le devait, toute sa doctrine. Et alors, dans les réponses aux objections que je ne vais pas détailler, il dit ceci: il n'a pas manifesté à la foule, ni même à ses disciples, toutes les profondeurs de sa sagesse. Il disait: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter présentement. Saint Jean chapitre 16, verset 12. Mais ce qu'il a cru devoir en révéler, il l'a proposé au public, bien qu'il n'en fût pas toujours compris. Jamais il n'a caché sa doctrine. Il a seulement voilé dans ses discours certaines vérités que la multitude n'était pas encore capable de saisir. Et enfin, dernier article pour aujourd'hui. Le Christ aurait-il dû écrire sa doctrine? Est-ce qu'il aurait dû l'écrire lui-même? Il n'était pas convenable que le Christ écrivît lui-même ses instructions. Trois motifs ici que donne saint Thomas: la dignité de notre Seigneur, ensuite l'excellence de son enseignement, et enfin le mode déterminé de transmission. Tout d'abord, sa dignité. Au maître le plus éminent appartient la plus éminente de toutes les méthodes d'enseignement. Docteur par excellence, le Christ devait graver lui-même sa doctrine dans l'âme de ses auditeurs. Aussi est-il rapporté qu'il enseignait comme ayant autorité. Saint Matthieu chapitre 7, verset 29. Chez les gentils eux-mêmes, Pythagore et Socrate, maîtres de premier ordre, ne voulurent rien confier à l'Écriture, qui n'a pas d'autre but que d'imprimer un enseignement dans le cœur des hommes. Si le but de d'écrire, c'est de faire pénétrer un enseignement plus profondément dans le cœur des hommes, le Christ pouvait le faire par voie orale. Il n'avait pas besoin de le faire par écrit. Et donc, il y a des exemples, même chez les païens, comme Pythagore et Socrate, qui eux-mêmes n'ont rien écrit en raison de leur autorité. Deuxième motif, l'excellence de son enseignement. S'il eût écrit lui-même sa doctrine, quel livre aurait pu la renfermer? Saint Jean ne nous dit-il pas: il est beaucoup d'autres choses accomplies par le Christ. Si on les rapportait toutes en détail, le monde ne comprendrait pas les livres que l'on en écrirait. Dans le dernier chapitre, verset 25. Ce n'est pas l'espace qui manquerait, reprend très bien saint Augustin, ce serait la capacité des lecteurs. Et enfin, troisième motif, le mode déterminé de transmission. La doctrine chrétienne devait passer immédiatement de la bouche du Christ à ses disciples, chargés d'instruire le reste du genre humain par leurs paroles et par leurs écrits. Ce genre d'enseignement n'aurait point existé s'il avait écrit lui-même, et il aurait agi contrairement à ce mot. La sagesse divine a envoyé ses servantes pour appeler les hommes à la cité. Donc s'il avait écrit, il n'y aurait plus besoin d'avoir d'enseignement oral par la suite, parce que tout aurait été écrit. Et notre Seigneur voulait que son enseignement se manifestât, non pas par l'écrit, mais par la voie orale, donc par l'intermédiaire des apôtres. Et alors il y a quand même quelques objections. Première objection, comment penser que notre Seigneur donc n'aurait pas dû écrire? L'écriture n'a-t-elle pas été inventée pour garder la mémoire d'un enseignement? Or, la doctrine du Christ doit durer éternellement. Lui-même le dit dans saint Luc: le ciel et la terre passeront, non mes paroles. Le Christ aurait donc dû consigner son enseignement par écrit. L'Écriture a pour but de conserver la mémoire d'un enseignement. L'enseignement de notre Seigneur doit durer jusqu'à la fin des temps, donc notre Seigneur aurait dû consigner par écrit. C'est ce que dit l'objection. Alors, la réponse ici, saint Thomas dit, « En un sens, l'on pourrait soutenir que le Christ a écrit sa doctrine. Voici comment, d'après saint Augustin, par rapport à tous ses disciples, le Christ peut être considéré comme la tête par rapport aux membres de son corps. Lors donc que ses disciples ont écrit ce qu'il avait montré et déclaré, on ne doit pas dire que ce n'était pas lui-même qui l'a écrit, puisque ses membres ont consigné ce qu'ils n'ont connu que sous la dictée de la tête. C'est lui en effet qui leur a commandé, comme à ses mains d'écrire, tout ce qu'il a voulu que nous lisions, soit de ses actions, soit de ses paroles. » Et ça, c'est intéressant parce que ça montre toujours avec quel respect on doit lire la Sainte Écriture, en pensant malgré tout que ce ne sont pas simplement des faits qui ont été rapportés d'une façon purement humaine, mais c'est en tant qu'ils étaient vraiment rattachés à notre Seigneur que les apôtres ont écrit. Et donc c'est vraiment la pensée de notre Seigneur qui quand même se manifeste à travers la Sainte Écriture. Autre objection, en outre, c'est à lui qu'est ordonnée la loi ancienne qui le préfigure, car selon l'épître aux Hébreux, la loi n'avait qu'une ombre des biens à venir. Or, la loi ancienne n'a-t-elle pas été écrite par Dieu, qui dit à Moïse dans l'Exode, « Je te donnerai les deux tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits. » Le Christ devait donc lui aussi écrire son enseignement. La loi ancienne était écrite sur la pierre, donc la loi nouvelle aurait dû aussi être écrite. C'est ce que dit l'objection. Réponse. La loi ancienne étant livrée en des figures sensibles, il convenait qu'elle fût écrite avec des caractères sensibles. Par contre, la doctrine du Christ, qui est la loi de l'esprit de vie, devait être écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit Saint, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur, ainsi que s'exprime saint Paul dans sa seconde Épître aux Corinthiens. Donc ici c'est le sens symbolique. La loi nouvelle est une loi intérieure, elle doit donc être manifestée d'une façon intérieure et non pas extérieure comme la loi ancienne. Et enfin, dernière objection, et je vous libère. D'après saint Luc, Jésus est venu illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il avait donc pour mission d'écarter les occasions d'erreur et d'ouvrir le chemin de la foi. Or, n'aurait-il pas atteint ce but en mettant sa doctrine par écrit? Il y en a, écrit saint Augustin, qui se prennent habituellement à s'étonner de ce que le Seigneur n'a rien écrit lui-même, de sorte qu'il est nécessaire de croire à ceux qui ont écrit sur lui. Et saint Augustin ajoute, « Il semble prêt à croire de lui ce qu'il aurait écrit de sa personne, mais non de ce que les autres en ont prêché à leur fantaisie. Le Christ aurait dû donc consigner par écrit son enseignement. » Donc l'objection dit ici, « Certains ne croient pas à la Sainte Écriture parce que ce n'est pas l'Écriture de notre Seigneur. Ce sont simplement les apôtres qui ont écrit, qui étaient simplement des hommes comme les autres. Or, si notre Seigneur avait écrit lui-même, les gens auraient cru. » C'est ce que dit l'objection. Donc notre Seigneur aurait dû mettre sa doctrine par écrit afin que la foi soit transmise à un plus grand nombre d'hommes. Et la réponse est simple. Ceux qui n'ont pas voulu croire au Christ sur la foi des écrits de ses apôtres n'auraient pas cru non plus au Christ sur la foi de ses propres écrits. Voilà. Et c'est vrai. La réponse de saint Thomas est topique. Réclamer de nouveaux signes en se déclarant non convaincu par ceux qui ont déjà été accomplis, n'est-ce pas montrer un état d'esprit rebelle à toute preuve de la divinité de Jésus ou du christianisme? Eh bien voilà, nous continuerons la prochaine fois à partir de la passion de notre Seigneur. Il est tard, il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? Vous voulez bien vous coucher tout de suite, n'est-ce pas? Bon, on va terminer par la prière.